Donc, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la tradition ou la parole de Dieu. Vous choisissez. Dernièrement, on a parlé, Jésus-Christ, dans l'évangile de Marc, il a exposé en fait cette contradiction avec la tradition, la parole de Dieu. Comment Jésus-Christ aussi a exposé le cœur des pharisiens. Ces pharisiens qui étaient censés être enseignés, qui étaient censés garder la loi. Elle est présentée au peuple, ils se tenaient à la porte et ils utilisaient les traditions orales qui étaient censées décortiquer la loi pour expliquer ça à la population. Mais ils ont décortiqué ça en contredisant la loi, en annulant la loi elle-même. Et Jésus-Christ a souligné cela qu'en fait, ce sont des hypocrites. Et on pouvait aussi bien voir ça dans notre société aujourd'hui. Il y a des églises qui le font, il y a des dénominations qui le font, qui demandent à la congrégation de lire plus de livres, qui vont annuler la parole de Dieu. Et on a aussi vu, même nous-mêmes, souvent, nous le faisons. Nous choisissons une parole, nous choisissons certaines choses de la culture qui annulent la parole de Dieu. Les traditions aussi, comment cette tradition peut venir dans notre vie et carrément annuler ce que Dieu a fait. Donc, c'était l'angle de Jésus-Christ. Et aussi, comment c'est ce qui est derrière cela, en fait, ce qui est derrière cette tradition, c'est pour éliminer, c'est pour enlever le Seigneur. Donc, même dans la religion, ces traditions sont là pour enlever le Seigneur, pour enlever Dieu, pour enlever Jésus-Christ et pour soulever des hommes. C'est pour l'intérêt des hommes. Quand cette parole de Dieu est diluée, au lieu d'enseigner les disciples, quand Matthieu le dit, allez faire les nations des disciples, selon la parole de Dieu, on les enseigne selon des hommes. Et on a un résultat qui est vraiment troublant. Donc aujourd'hui, on va voir que c'est là la tradition face à la parole de Dieu, sur un autre angle. Comment Paul vraiment adresse cela. Et Paul vraiment envoyer, on va se focaliser sur notre verset de base qui est Colossiens. Et Paul envoie en fait cette lettre à ces chrétiens, pour ce sont des paroles qui étaient vraiment alignées avec la situation dans laquelle ils vivaient. Donc, c'était. Donc, Paul, vous voyez qu'ils étaient convertis, vous voyez qu'ils étaient des chrétiens juifs et non juifs, mais la situation sociale dans laquelle ils étaient en train de corrompre le bon travail qu'il a fait. Et donc, il envoie cette lettre, et vous voyez bien, ces gens, qui étaient sous l'emprise romaine, qui n'étaient pas des chrétiens avant, donc ils sont convertis, ils avaient plusieurs sortes de traditions. Il y avait des traditions dans lesquelles, en fait, ils louaient plusieurs dieux. Que ce soit les propres dieux, que ce soit ceux qui sont venus avec les dieux d'Égypte, que ce soit l'empereur aussi. On faisait des cultes à l'empereur, on faisait des célébrations à l'empereur. Donc, ça faisait partie de la vie, ça faisait partie de la culture. De la tradition, c'était comme ça. Et donc, dès qu'ils acceptent Jésus-Christ, ils se rendent compte qu'en fait, il y a juste un seul Dieu. On ne peut plus adorer ces autres dieux. Donc, ils doivent faire un choix, mais souvent, ils peuvent être corrompus sur le fait qu'il y a cette pression de la société, il y a cette pression de ses voisins, cette pression de ses ancêtres, cette pression de son environnement. Mais qu'ils demandent, mais vous, donc, tu ne fais plus les cultes à l'empereur, tu es contre l'empereur, tu te poses à l'empereur, tu rejettes l'empereur. Il y avait un peu de leur côté, toujours cette adhération de toucher un peu la culture. Et pendant, les gens voient cette lettre pour adresser cela. Et cela, c'est la même chose dans notre société. La même chose que ce soit avec les Africains. On devient chrétien. Il y a plus de dieux que les gens louent avant, mais ils font toujours un peu de la même chose, ils mixent un peu. Donc, il y a du mixage à l'intérieur. Donc, ce message, en fait, que Paul envoie à l'église de Colosse, ça nous concerne aussi. Pour ceux qui ont eu, qui étaient dans ces pratiques avant, qui louent d'autres dieux avant, et peut-être certains, non pas cette révélation, certains sont que dans l'ignorance, que peut-être on peut faire les deux en même temps. Donc, Paul va faire, il va dresser ce problème de tradition, ce problème de tradition en utilisant l'autorité suprême. L'autorité Quelles sont derrière cette tradition et l'autorité qui est derrière la parole de Dieu? Donc, on va lire Colossiens, en vacances, chapitre 2, versets 8 à 10. Nous commençons au verset 8. Ça dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mais ici, c'est intéressant parce que Paul appelle ça vaine tromperie. Donc, en fait, des tromperies qui n'amènent nulle part. Donc, en fait, que ces traditions sont des tromperies. Donc, ce qu'on faisait avant, vous imaginez? Les voyages qu'on faisait pour partir pour cette tradition, le temps qu'on passait pour faire cette tradition, l'argent qu'on a gaspillé pour faire toutes ces traditions. Donc, tous les efforts qu'on a fait, qu'on voit maintenant de l'extérieur, les gens en train de faire, les gens ont dépensé tellement d'énergie, tellement de ressources pour cette tradition. Paul dit que ça, ce sont des vaines tromperies. Même pas des travaux qui s'en vont, mais tromperies. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils veulent tromper. Il y a un désir, volonté de tromper. Un peu ce que Jésus qui disait par rapport aux pharisiens, que c'était des hypocrites. Donc, il y a des actions qui sont volontaires à l'intérieur. Vaines tromperies. Donc, il y a beaucoup qui pensent que les traditions sont innocentes. Que c'est juste, on fait juste ça pour honorer les ancêtres. Ça fait partie de la culture. On fait ça parce qu'on est sous la domination romaine, on veut juste plaire à l'empereur, sinon il va tout détruire. Non, c'est juste donner sa part d'argent, envoyer l'argent au pays, c'est tout. Je ne mets même pas mes mains à l'intérieur, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est juste pour que les esprits ne se fâchent pas, c'est juste parce qu'on ne veut pas avoir la même chose. Il y aura des raisons. Il y aura des raisons. Donc certains pensent que c'est juste innocent. Mais Paul dit que ces pratiques sont des proies des hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc, que ce sont des proies des hommes. Donc, quand on vous demande d'envoyer de l'argent pour faire votre part de cotisation pour célébrer l'hôtel, pour entrer et dire ces traditions-là, que ça, ce sont des proies des hommes. Quand on vous dit de partir faire au village pour partir se blinder, pour partir voir les marabouts, pour partir voir les gardes à faire, pour dire que cela, ce sont des proies d'hommes. Donc, c'est là, ces gens sont positionnés. Ils attendent que vous tombez dans le piège. Ils attendent que vous tombez comme des proies. C'est comme une personne qui va en brousse à son piège. Il attend paisiblement qu'une biche ou qu'un animal tombe dans son piège. Et il arrête. Le moment qu'on a mis le pied, le moment qu'on a mis la cotisation, le moment qu'on est parti célébrer, le moment qu'on est parti faire des cultes et des danses, le moment qu'on est parti embrasser la culture, que ce soit l'immoralité, l'impureté, ces choses que la culture supporte, Paul dit que ce sont des proies d'hommes. Pourquoi? On va voir ça tout à l'heure. Pourquoi ce sont des proies d'hommes? C'était design, ça a été fait, cette tradition en fait, c'est toute la culture. C'est pour enlever votre liberté. C'est pour prendre votre liberté. Pour ceux qui étaient déjà free en Christ. Pour ceux qui étaient déjà libres en Christ. Pour ceux qui avaient trouvé cette liberté. En fait, c'est là pour enlever cela. C'est là pour vous remettre encore in bondage. Pour vous remettre encore dans les chaînes. Pour vous rendre encore esclaves. La tradition rend les chrétiens esclaves. Donc c'est pour garder les chrétiens dans l'esclavage. L'esclavage du péché. Dans les chaînes du péché. et pour éloigner les chrétiens de la connaissance de Dieu où il y a la liberté. Ou pour empêcher même les chrétiens, même en connaissant Dieu, mais en marchant dans l'esclavage. La Bible dit qu'on est comme pêche, on est esclave du péché. Il y a certains, vous savez, remarqué, quand vous devenez chrétien, c'est un chose que le Seigneur a coupé, c'est un chose que le Seigneur vous a détaché spirituellement. La Bible dit qu'on était transféré du royaume des ténèbres dans le royaume, in the kingdom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, il y a eu ce transfert qui a été fait, il y a eu ce rachat qui a été fait. On a été payé par un prix. Donc, on s'attache encore aux traditions, qu'on va encore donner cet argent, qu'on va encore chez le marabout, qu'on va encore faire ces cultes, c'est comme un token, c'est comme un signe, comme une alliance, c'est comme si on se met encore cette domination dans laquelle on a été libéré. Donc, c'est pas seulement des choses physiques. C'est pour ça que Paul, on va voir plus tard, il a parlé aussi du côté spirituel à l'intérieur. Donc, les traditions, c'est pas juste physique, c'est spirituel. Comme nous vivons dans une culture où il y a l'immoralité sexuelle, qu'on repart encore à l'intérieur. Tu peux encore se donner comme esclave à cela. Tu peux encore se soumettre à l'esprit qui est derrière cela. Ça ouvre des portes. Et ça crée des chaînes, ça crée des alliances. Ça rend les chrétiens in bondage, comme esclaves. Ici, on parle de trahison, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont récurrentes. Ce sont des choses que ça continue, c'est comme un cycle. Donc, ça garde les enfants de Dieu dans l'esclavage et ça prend cette liberté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du New Age, le Nouvel Âge, une autre sorte de religion, une autre sorte de pratique qui dit qu'en fait, il n'y a pas Dieu, c'est l'énergie. Et que c'est à la personne de faire ce qu'il veut. C'est à la personne de quitter son corps, de partir voir les choses à gauche, à droite, d'avoir plus d'énergie, de vibrer à des différentes ondes. Donc on cherche un peu d'enlever le spirituel, on cherche un peu de cacher cela. On parle maintenant des termes qui sont connus, qui sont acceptés, scientifiques. Énergie, vibration. Et pourtant, c'est un mensonge de l'ennemi. Pourtant, c'est une manière dans l'ennemi, c'est masquer encore pour séduire plus et pour les garder encore comme esclaves et les éloigner de la tradition de Dieu. Donc, cette tradition à laquelle Paul est en train de parler dans le verset 8, en fait, ce sont des traditions humaines, ça renversait les vérités de la foi chrétienne, les vérités de la vie chrétienne. Donc, ça faisait appel à des instincts religieux de la nature. Donc, que ce soit le worship, ou bien faire des cultes au Dieu du soleil, ou bien au Dieu de la lune, ou bien au Dieu de la terre, ou bien au Dieu de la fertilité. Donc, un peu ces choses naturelles dans lesquelles les gens faisaient en fait des cultes. Les gens adoraient. Et vous voyez bien, il y a l'idolâtrie à l'intérieur. Donc, il n'y avait rien dans cela pour un chrétien. Si n'enseignait pas Christ, c'était contre la tradition, contre le message, contre la parole de Dieu. Mais ça appuyait sur les éléments du monde. C'est pour cela que Paul a dit les rituels du monde. Disait encore cela. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non en Christ. Mais si Paul utilise une autre approche, il introduit un peu ce côté spirituel. Donc il parle de ces rudiments, il parle de ces trucs de la nature et que derrière cela, il y a un côté spirituel. Donc quand ils s'agenouillent, qu'ils font des cultes au soleil, qu'ils font des cultes au Dieu de la fertilité, qu'ils font des cultes à la lune, en fait, ils sont en train de se soumettre aux esprits qui fonctionnent derrière cela. Donc, ils sont en train de faire des cultes, des adorations aux puissances des ténèbres. Donc, Paul a vu ça, Paul a discerné cela. C'est-à-dire que putain, il va mentionner quelque chose. Il le fait comprendre, en fait, que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qu'il y a une hiérarchie, c'est vrai, il y a une hiérarchie. On le fait comprendre cela. Et Paul va donc faire une comparaison. Donc, qui parle de tromperie, en fait, ça veut dire que derrière ce qu'ils font là, il y a des esprits qui agissent. Donc, qui font ces cultes, qui font ces traditions, ils sont beaucoup, ne le savent pas. Mais beaucoup l'ignorent. Ils ont en eux le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu, mais ils peuvent faire des adorations au Saint-Esprit. Ils peuvent être chez le marabout, ils peuvent te soumettre à notre esprit, au esprit ancestral. Les esprits qui sont petits, mais en lui, il y a le grand, le glorieux, le puissant Saint-Esprit. Ah, mais c'est pour ça que Paul parle d'une tromperie. C'est une tromperie. Comment échanger ce qui est glorieux, échanger cette grâce, échanger cette domination, puissance avec les choses de la création, avec la créature. Tu vois que ces esprits sont des tromperies. Donc, quand vous partez, que ce soit New Age, fait des tatous avec des signes qui sont bizarres, ou bien chez les satanismes, ou bien chez toi, chez les marabouts, chez les gangas, ou bien chez tu parles aux ancêtres, pas tu vois pour les ancêtres sont fâchés. Ce sont des esprits qui sont inférieur, c'est la création de Dieu. Mais en vous, vous avez quelque chose qui est supérieur. Vous avez celui qui crée, celui par qui tout a été créé, visible, invisible, Christ, qui est au-dessus de cela, qui a mis tout cela sur ses pieds, qui a mis tout cela sous nos pieds, donc encore partir les voir, les demander, les poser des questions, les faire des cultes, mais c'est une grande tromperie. Une grande tromperie. Et l'ennemi étudie la tradition pour faire passer cette tromperie. C'est pour ça que Paul dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez même qui est en vous? Est-ce que vous comprenez même celui qui est en vous? C'est pour ça que si on rentre un peu, on va en Colossiens 1. Il va un peu expliquer qui est Christ, il va donner un peu un résumé de Christ, parce qu'après, ils ne comprennent pas. Donc, si on comprend qui est Christ, mais il y a certaines choses qu'on ne va pas faire. Si on sait qui est en nous, que qu'on fait un pas. Ah. Il dit aux gens de Colossiens que la plénitude de Dieu, la plénitude de Dieu, Christ est la plénitude de Dieu. Que c'est lui, que c'est Dieu en chair. Ok, continuons. Donc, en fait, dans autrefois, qu'il n'avait pas connu Jésus-Christ, quand il vivait dans la chair, il était sous la domination de ses puissances. Donc, quand Jésus n'était même pas encore là, quand les gens faisaient ces traditions, ils faisaient tout cela, ils faisaient tous ces péchés. Oui, ils étaient sous la domination de cela. Ils étaient sous l'emprise du péché. On était tous avant esclaves du péché. Jusqu'à ce que Christ est venu. Donc, ces puissances-là dominaient de la vie des gens qui étaient avant Jésus-Christ. Ils contrôlaient. On appelle Satan le prince de l'air. Avant que Jésus-Christ n'arrive, il avait ce contrôle. Mais maintenant qu'ils ont dit oui à Jésus-Christ, qu'ils ont accepté Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ nous a donné, Jésus-Christ nous a donné cette autorité, ce pouvoir, d'abord de se libérer de ses puissances et de les conquérir, d'avoir autorité sur eux. Donc, l'emprise sur nous n'est plus là. C'est nous maintenant qui exerçons notre autorité contre nous. Il y a toujours cette confrontation. Il n'y a pas d'amitié à l'intérieur. Et beaucoup ne pensent pas cela. Dans le spirituel, il y a cette confrontation. Donc, c'est comme si c'était. Il y a un peu ce côté insensé à l'intérieur. Donc, ils ont cette libération en Christ, qu'ils célèbrent, qu'ils jouent, qu'ils sont en train de jouir. Mais c'est comme s'ils revenaient encore en arrière et se remettre une fois de plus sur le joug de l'ennemi. Se remettre une fois de plus sur le joug des puissances avant dans lesquelles ils étaient. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça nous rappelle Israël. Ils sont quittés l'Égypte. Domination égyptienne, esclave. Tu les fais sortir. Tu marches dans la liberté en Christ. Ah, mais ça rappelle la viande d'Égypte. Il veut repartir sur le joug égyptien. Mais c'est exactement ce qui se passe. On est dans les traditions, on accepte Jésus-Christ, on est dans les traditions, on est dans la liberté, celui qui a cette freedom in Christ. Mais si on repart encore sur les traditions, c'est-à-dire qu'on repart encore sur le joug de ces entités. Pourtant, Christ nous a donné l'autorité sur eux. Nous sommes maintenant assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, quand Jésus-Christ est assis, on est assis avec lui. On est assis en lui. Donc, quand il est au-dessus, principauté, puissance, domination, esprit méchant, nous sommes avec lui. Ça, c'est Éphésiens 2. Donc, tout est sous nos pieds. Donc, il y a une tromperie à l'intérieur. Donc, on ne doit plus repartir pour faire les œuvres de la chair. On ne doit plus se soumettre à ces œuvres de la chair. Et Paul le dit bien dans Galates 5:19. L'immoralité sexuelle, l'impureté, l'idolâtrie, ceux qui sont sous, les orgies, tout cela. Il y en a plusieurs. Donc, on ne peut plus vivre dans cela, on ne peut plus se soumettre dans cela. Même si la société à laquelle, dans laquelle on vit, uplift cela, soulève cela, glorifie cela, soulève cela. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la tradition. Mais nous devons avoir ce discernement qui a fait ces choses. C'est l'esclavage. C'est vraiment l'esclavage et ça conduit à la mort. Comme Proverbe le dit, ça conduit à la mort. C'est encore là pour nous mettre des chaînes, pour nous ramener comme esclaves. Mais en Christ, on est libre. Celui que l'Esprit rend free, celui que Christ rend free, il est free en vérité. He is free indeed. Donc gardons notre liberté en Christ et séparons-nous de ces traditions, séparons-nous de ces éléments, ces aspects de la culture qui vont nous ramener dans l'esclavage. Et ce que Paul explique aux gens de Colossiens, ne repartez plus dans cet esclavage. Ne repartez plus dans cette tradition parce que vous étiez esclaves. Esclaves de qui? De ceux qui sont derrière ces régiments du monde, ces esprits qui sont derrière le soleil, derrière la lune, derrière la terre, derrière la fécondité. C'est eux qui vous tenaient esclaves. Et Christ vous a délivré, Christ a brisé les chaînes. Et même pas seulement cela. Il a fait plus. Matthieu 18, tu penses? Il vous a donné les clés. Tout ce qu'on lira sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'on délivre sur la terre sera lié dans les cieux. L'autorité même sur ces principalités. Mais comment on a l'autorité sur quelque chose, mais on veut encore se soumettre à cette chose? Ça, c'est la tromperie. Mais c'est comme si vous avez une maison. Vous louez la maison. C'est vous le propriétaire. Vous partez dans cette maison, demandez au locataire que vous voulez louer une chambre. Est-ce que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Votre propre maison. Vous partez demander si vous pouvez louer une chambre à votre locataire. Ça n'a pas de sens. Si les gens le font spirituellement, ce sont des tromperies. Ce sont des tromperies. Ça n'a pas de sens. Donc on va lire, continuer au verset 9. Pour dire ceci. Car, il va expliquer. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
dans la divinité, tout ce qu'on parle de Dieu, qu'on parle de Dieu en lui, en Christ, il n'a pas dit à moitié, il n'a pas dit une partie, il n'a pas dit 50%, 60%, ou bien toute la plénitude, toute la plénitude, tout. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Souvent, il y a beaucoup de débats derrière ceci. Beaucoup de débats. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? C'est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Christ est Dieu. Donc, en lui, c'est Dieu. Donc, Paul est en train de dire, vous cherchez à repartir des traditions qui font des cultes et des adorations aux esprits. Qui est la création? Qui est la création? Qui fait partie de la création? Mais qui en fait celui qui vous a accepté, celui que vous avez reçu, celui qui vit en vous, Christ, l'espérance, la gloire, celui qui est en vous, en lui, est la, toute la plénitude de la divinité. Bien aimé, si on connaît cela, si on, même pas si on connaît, si on a cette révélation, si on marche dans cela, pourquoi, ayant la plénitude, la divinité en moi, en nous, on va partir faire une ganga pour dire, il y a un problème. Hey! Si on sait que Dieu vit en nous, Christ en nous, par son Saint-Esprit, Saint-Esprit qui est Dieu, on va partir voir les gauche à droite. Mais non. Mais non. Paul va encore continuer. C'est pas juste Christ. C'est pas plus. Ok, Christ, plénitude, la divinité. Quoi encore? Donc, avant même qu'on le continue, verset 10. Donc, Paul essaie de souligner qu'il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchie de pouvoir. C'est vrai qu'il y a certains, dans le monde, il y a des pouvoirs. C'est pas, il y en a, il y a des esprits, on a donné certains petits pouvoirs, donc il y en a. Mais quand on fait la comparaison, il y a le Créateur, il y a la créature. Donc, Christ et chrétiens, ils ont quelque chose de tellement mieux. Tellement mieux Christ à eux. Et Paul les encourage d'avoir les yeux fixés sur le Créateur et non sur la créature ou des créatures. Donc, non pas les yeux fixés, que ce soit les esprits, que ce soit la sorcellerie, les petits pouvoirs qui viennent de Satan, mais qui est plus élevé? 1 Jean 4, 4 dit ceci. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, quand vous partez vous asseoir chez les gangs là, rappelez-vous, celui qui est en vous est plus fort qu'eux. Mais pourquoi partir même? Il n'y a pas. Donc, tout ce que vous cherchez, tout ce qu'on cherche, tout cela, tout ce qu'on cherche, bien sûr, ce sont des choses qui sont pures. Quand il veut dire qu'il faut connaître le royaume de Dieu, il faut chercher le royaume de Dieu d'abord, parce que ça va changer notre manière de penser, ça va transformer notre système de pensée pour voir les choses comme Dieu voit. On va demander les désirs de notre cœur. Donc ces choses, ce sont les choses qui sont alignées avec la parole de Dieu, alignées avec la pensée de Christ. Parce qu'on est en train de transformer l'image de Christ. Donc toutes ces choses, c'est en Christ. Donc, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui, donc, quand on vous appelle encore pour faire envoyer Jésus pour la tradition, rappelez-vous que celui qui est en vous est plus fort que les choses de cette tradition. Ou bien, on vous appelle, ou bien vous voulez partir, vous avez des problèmes, vous voulez partir pour les gangas. Celui qui est en vous est plus fort que ces gangas. Ou bien, votre travail. On m'a dit que pour avancer en promotion, il va falloir signer ces papiers. Celui qui est en vous est plus fort que ceux qui sont derrière ces papiers, mais ceux qui sont sur le travail. Celui qui est en vous, c'est la plénitude de Dieu. C'est Dieu. Et c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui domine. Donc, vous êtes assis
dans les lieux célestes en Christ. Il faut connaître cette identité. Quand on ne connaît pas notre identité, c'est comme si on marche comme des... Donc quand on enlève l'identité de quelqu'un, la personne ne sait plus qui il est. La personne fait des choses, c'est en étant une identité qui est l'identité d'esclave. Il se comporte comme esclave. Pourtant, il n'est plus esclave. C'est l'identité qui a été donnée en Christ. Nous sommes maintenant des ambassadeurs. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, pour les révéler, voici ce qu'il faut comprendre. Donc, ces petites autorités qui sont en train de faire les cultes d'adorer. Mais ce que vous cherchez, les choses que vous cherchez, vos besoins, ce que vous dérange, il dit, vous avez tout. Waouh! Qu'est-ce qui n'est pas dans tout? Vous avez tout. Paul a dit tout. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la maison? C'est. Je ne sais pas. Les problèmes ici, devant, à gauche. Quel genre? Bien sûr, il faut que ce soit aligné à la parole de Dieu. Il faut que ce soit aligné à la parole de Dieu. Parce que ceux qui cherchent des choses mauvaises, Dieu ne va pas donner cela. Ce ne vient pas de Dieu. Alors que Dieu donne les bonnes choses. Vous avez tout pleinement en lui. En qui? En Christ. Et quand on dit pleinement, parce qu'il y a ceux qui sont en Christ qui ne sont pas pleinement en lui. Il y a ceux qui ont un pas devant, un pas derrière, demandent à Christ, demandent derrière, ce qui fait qu'à la fin, ils n'ont pas, Dieu ne donne pas. Il faut être pleinement ancré, il faut te positionner, il faut t'enraciner, il faut t'attacher, il faut tout se donner. Il ne faut pas être à moitié. Paul n'a pas dit, vous avez tout à moitié en lui. Donc tout ce qu'on a est plénitude, il faut aussi qu'on se donne totalement à Christ. Donc ceux qui avaient un pied dehors, un pied derrière, un peu dedans, un peu dehors. Ça, le christianisme ne marche pas comme ça. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme une relation. Vous ne pouvez pas partir avec quelqu'un. Vous pouvez marier la personne avec un pied devant, un pas derrière. La personne ne peut pas s'engager. Quand on s'engage, un mariage, Christ, nous sommes l'épouse de Christ. C'est un mariage. Une célébration qui aura lieu. Donc, on doit se donner totalement. Même chose sur le plan physique. Est-ce que vous allez sortir avec quelqu'un, vous marier à une personne qui ne se donne pas totalement? Qui n'est que attaché à notre personne. Et ce n'est pas caché. Ça se voit. Mais non. On dit, mais attendez. Faites votre choix. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Choisissez un ou choisissez l'autre. Et vous ne pouvez pas jouer ça avec Christ. Christ ne joue pas ça. Dieu voit tout. Dieu voit le cœur des gens. Donc faites un choix. Vous choisissez la plénitude. Christ. Vous choisissez la création. Ou que Jésus choisit le Dieu de la création, ou la création c'est un choix. Et le choix est obvious. Le choix est tellement simple. Donc, tu dois totalement se donner. On ne peut pas jouer le jeu un pied dedans, un pied derrière. Ça ne marche pas. Surtout avec Dieu. Donc, si vous avez un pied dedans, un pied derrière, Jésus qui vous attend toujours. Ne pas totalement donner. Jésus-Christ vous attend toujours. Donc, vous avez tout pleinement lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia! Donc, celui qui est à nous, celui qui est à notre Seigneur, notre roi, il est le chef. Pour un peu essayer de comprendre cela, est-ce que vous avez, si vous avez peut-être un ami qui est une grande autorité quelque part, ou bien votre parent qui a une grande autorité quelque part. C'est comme si vous avez aussi une part d'autorité à l'intérieur. C'est comme si ça, l'autorité qu'il est un peu partagée avec vous. Même juste un ami. Si un ami est élevé quelque part, juste le fait que vous êtes avec lui, vous bénéficiez de cette élévation. Vous faites partie, on fait entrer facilement, ou bien vous avez peut-être l'interview facilement. Donc, le fait d'être ami à une personne qui est élevée, vous bénéficiez.
Si une personne de votre famille est élevée, vous bénéficiez, même ceux qui sont qui font des contrats avec ces personnes, quand vous voyez, ils vous donnent ce respect parce que vous le connaissez, vous connaissez la personne qui a l'autorité. Quand on élève l'enfant du président, on donne ce respect. Mais ici, on dit que Jésus-Christ, chef de toute domination et de toute autorité. Waouh! Donc, quelle que soit l'autorité qui existe dans le monde, sur la terre, sous la terre, toute autorité, on dit que Christ est le chef. Mais souvent, on cherche la puissance. On cherche la puissance, on veut plus de puissance. On veut plus, on veut plus, on veut plus. On voyage, on va à gauche, on va devant, on va derrière. On cherche. Paul dit en fait, il y a une personne qui est chef. Une personne qui est en haut. Une personne, c'est-à-dire, ne partez pas voir les ABC. Non, non. Une personne qui a déjà été établie. Dont le nom a déjà été élevé au-dessus de tous les noms. Donc, si vous partez même sur la terre d'abord, vous cherchez fatigué. Vous partez sous la terre où on fait les complots. Vous cherchez fatigué. Et vous remontez encore dans les cieux. Vous voyez les anges, vous demandez quelle africaine autorité il a cherché pendant longtemps. Il est un nom. Ça a été donné. Jésus-Christ de Nazareth. Nom élevé au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Chef de toute autorité. Vous ne cherchez plus le sorcier de Bafoussam, de Djamena, de Conakry. Non, non, non. Il y a une personne. Christ. Toute autorité. On va faire un choix. Donc, quelles sont les autorités du village? Les autorités de la tradition? Les autorités de quelle que soit l'autorité? C'est Christ. Mais pourquoi n'est pas choisi Christ? Puisqu'il est élevé. Pourquoi n'est pas choisi Christ? Qu'il est au-dessus de toutes ces autorités, même domination, même pas de puissance, on parle que ce soit les anges déçus, que ces esprits méchants, qui que ce soit. Il est chef de tout. Et la bonne chose, c'est que nous sommes son époux. Donc on bénéficie. Ouais, on bénéficie. Si vous avez un employé chez vous, même si c'est le mari qui emploie l'employé, l'employé aussi respecte la femme. Ils sont un. Christ et nous sommes un. C'est pour ça qu'il nous a donné les clés. C'est pour ça qu'il a dit, c'est qu'on lit sa tête, ça allait dans les cieux. C'est pour ça qu'il a dit qu'on a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est pas nous. C'est parce que lui, il a cette autorité, ça vient de lui. Donc, quand on fait les chasses des démons et tout, c'est pas parce qu'on est trop fort. C'est parce que celui qui est à nous, celui qui est dedans là, c'est le chef des autorités. Il est à nous. Donc, on a ce bénéfice. Donc, Paul dit ceci, mais en fait, vous cherchez même quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Ce que vous voulez chercher, vous voulez partir louer. Ce que vous voulez partir faire des cultes, celui qui est en vous est au-dessus d'eux. Celui qui est en vous a l'autorité, celui dont vous avez l'autorité. Ce que vous voulez partir louer. C'est pour ça qu'il dit en fait, tromperie, tromperie, tromperie. Vous êtes haut gradé, vous avez des échelons. Des échelons, on ne peut même pas compter. Vous voulez partir vous mettre à genoux sur une personne qui a à moitié, demi échelon. Ça n'a pas de sens. C'est que Paul est en train de dire. C'est pour ça qu'il a décortiqué cela. Il dit, c'est vrai qu'il y a la domination, c'est vrai qu'il y a les autorités, mais une personne qui est au-dessus de cela et qui nous a légué cette autorité. On a ses clés. Donc, bien aimé, je pense que le choix est facile. Je pense que le choix est évident. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a révélé cet amour à travers Christ. Il a donné son Fils unique pour nous. Et il veut qu'on marche dans cette sanctification. Il veut qu'on marche, qu'on soit totalement donné à lui. Et que la tradition, il ne veut pas qu'on retourne dans les chaînes, dans l'esclavage. Parce qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est ce que la parole de Dieu le dit. Mais pourquoi t'en retourner? Donc détachons-nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la solution? Maintenant qu'on connaît comment la tradition est destructive, que devons-nous faire? Je pense que c'est évident. Il doit y avoir un détachement. Il doit y avoir un détachement, une séparation. Il y a beaucoup aussi qui ont des regards fixés sur les hommes. Il y a beaucoup qui vont se dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Il y a beaucoup qui auront cette peur de l'homme. Mais pourquoi? Donc vous êtes enchaîné. Vous avez la clé pour vous déchaîner, mais vous ne pouvez pas vous déchaîner parce que vous avez peur des hommes. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi rester dans la souffrance à cause de la peur des hommes? Ça n'a pas de sens. Peur d'être rejeté par les hommes. La peur d'être mal vu par son entourage. Mais rappelez-vous bien-aimé, que Jésus-Christ a dit ceci. Que si on aime notre famille plus que lui, si on aime nos amis plus que lui, on n'est pas digne de le suivre. Donc là, il y a une séparation. Donc si vous avez peur, que ce soit de votre environnement, que ce soit votre famille, que ce soit de quoi que ce soit, il faut savoir que Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ est digne de cette séparation de la tradition. Si on ne l'honore pas, si on l'aime, on a cet amour pour cette personne, plus que Christ, n'est pas digne de le suivre. Donc, rappelons-nous cela, ça peut nous aider quand on va prendre cette décision. Ne pensons pas ce que les autres vont dire. N'ayons pas les hommes comme préoccupation. Focalisons d'abord sur le Seigneur. Les hommes viennent après. C'est d'abord le Seigneur. Cherchons d'abord à faire plaisir à Jésus. On ne doit pas être main focus, avoir notre concentration sur les hommes. Ça va tout gâter. Mais on doit être kingdom focus. Donc, ayons d'abord les yeux fixés sur Jésus. Cherchons d'abord à appeler Jésus. Il va download, il va télécharger, il va nous remplir de sa paix, de son amour, de sa joie. Après ça, maintenant, pour voir comment, avec la sagesse, on peut naviguer, on peut appliquer ça dans notre vie. Mais si on commence par les hommes, par la tradition, on va chercher à contredire Dieu. Mais commençons par Dieu. Parce que sa parole dit, ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc ça commence dans les cieux. Donc, quelle que soit la préoccupation que vous avez, commencez d'abord à faire plaisir à Dieu. Il y a une grande différence. Si on regarde les disciples, que ce soit, Jean et Jacques, ils sont battus voir Jésus pour dire, mais est-ce qu'ils peuvent s'asseoir un à sa gauche, un à sa droite, quand il va régner? Et que leur pensée était focalisée déjà sur le comment il devait être à côté de Jésus-Christ. On doit être focalisé how close. Comment on sera proche de Jésus-Christ? Parce qu'à ce moment-là, le moment qu'il sera proche de Jésus-Christ. Donc, comment on sera proche de lui? Plus tard. Pas au chaud des hommes. Donc, la solution, que faire? Il faut renoncer. Il faut dire non à la tradition. Il faut dire non, non, non. Un nom qui est précis, un nom qui est ferme. Il faut dire non, il faut renoncer. Mais ce n'est pas seulement tout, il ne faut pas juste renoncer. Parce qu'en fait, quand on enlève quelque chose, qu'on sépare quelque chose, qu'on détache quelque chose, il va falloir remplir cela.
il doit avoir un remplissage. La même chose avec la délivrance. Il doit avoir un remplissage. Donc, il faut qu'on se remplisse. Donc, on renonce et on se remplit. De quoi est-ce qu'on se remplit? On va aller rapidement, avant que le temps avance. Sur les Colossiens 6, ça dit, « Et ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Christ, marchez en lui. » Donc, on doit marcher en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit être rempli de lui. On doit le suivre. C'est-à-dire que où Jésus-Christ va, on y va. En fait, ça veut dire qu'on doit refléter le caractère de Christ. On doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc, on marche en lui. Je veux dire que c'est tellement terrible que les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la Bible, qu'ils sont les chrétiens, ils n'ont pas besoin de la Bible. Donc, comment le faire? Colossiens 7 nous dit ceci. Étant enraciné et fondé à lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées et abondées en action de grâce. Donc, il faut être enraciné en Jésus-Christ. Il faut être fondé en Jésus-Christ. En anglais, c'est « build up ». Vous savez que c'est un process qui est continu. Ce n'est pas juste une seule fois. Et comme on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une seule fois, c'est continu. On va continuer à être « build ». Ce n'est pas une fois, c'est continu. Et on doit être affermi par la foi, par des instructions. Donc, des instructions que le Seigneur va nous donner. Donc, reste enraciné. C'est comme une maison. Si une maison n'est pas enracinée, ça sera facile pour la maison de tomber. Si un arbre n'est pas vraiment enraciné, ça sera facile pour cet arbre de tomber. Donc, on doit être vraiment enraciné, que ce soit par lisant la parole de Dieu, que ce soit par ayant une communauté, que ce soit par l'église, que ce soit par la prière, que ce soit par la louange, que ce soit par des chansons. Donc, tout cela, ça doit faire partie de notre vie, notre style de vie. Ça doit être un truc qui est continu, pas seulement une fois aujourd'hui, une fois dans 5 jours, une fois dans 1 mois. Tout cela doit être continu jusqu'à ce qu'on sait qu'on est enraciné, jusqu'à ce qu'on sait qu'on est fondé. Et là, la tradition n'aura plus de pouvoir sur nous. Et même les choses qui étaient cachées, les choses qu'on pensait être normales, le Saint-Esprit, parce qu'on a sa parole, pour qu'on a parlé de Dieu, va nous révéler, va nous ouvrir les yeux, va nous éclaircir, va nous montrer qu'en fait ceci, ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'on sera conduit par le Saint-Esprit. Il va terminer avec Marc 9, 49, 50. Ici, la parole dit, « Car tout homme sera salé de feu. » Ici, c'est en train de dire, en fait, ceux qui ne sont pas chrétiens, il y aura le feu éternel. Mais ceux qui sont chrétiens, il y aura ce raffinement. Donc, il y aura cette transformation qui sera continue. Que ce soit par les bonnes œuvres, que ce soit par les choses que le Seigneur va construire à nous, il y aura cette transformation. Mais à la fin, c'est ceci, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, bien-aimé, notre vie doit être salée pour le Seigneur. Notre vie, elle doit être salée pour le Seigneur. Et la tradition vient enlever ce sel. La tradition vient manger et prendre et prendre et prendre. C'est à la fin, il n'y a plus de sel. Et à quoi ça sert le sel s'il n'y a plus de saveur? Si tout ce sel, si tout le zèle, l'amour, les choses qu'on faisait étaient rongées par la tradition. Donc, séparons-nous de cela, étant enracinés, fondés dans la parole de Dieu et restons salés, ayant un environnement avec d'autres chrétiens qui sont aussi salés. Si vous êtes salé, vous avez un environnement qui n'est pas salé, un environnement qui n'a pas de saveur, vous allez perdre votre saveur. C'est pour ça qu'on dit, il faut, si vous avez le feu qui brûle en vous, pour augmenter, pour que ce feu continue à brûler, vous mettez d'autres éléments autour qui ont aussi le feu. Il faut autour avoir cette communauté. C'est pour ça que c'est beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens qui ne vont pas à l'église. Mais ils n'ont pas cette communauté de frères et sœurs en Christ. Ça, c'est un recipe. Ça, c'est une direction pour ne plus avoir ce sel. Donc, restons salés pour le Seigneur. Séparons-nous de la tradition et choisissons Jésus-Christ. Nous donnons ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.